Bonjour, bienvenue à la radio du collège Jean Austin. C'est Taïra, Najib, Amir, Anaïs et Léana et Ruben.
Bonjour. Bonjour.
Nous allons vous parler des Jeux paralympiques. Amir, depuis quand il y a des Jeux paralympiques ?
D'abord, des tournois ont été organisés par un docteur anglais pour éduquer et redonner le moral à des soldats blessés pendant la Seconde Guerre mondiale. Les premiers Jeux paralympiques datent de 1960.
Qui peut participer aux Jeux paralympiques ?
Des sportifs en fauteuil, des malvoyants, des personnes amputées.
Dis-moi, Tyrone, quels sont les différents types de handicaps ?
Il peut y avoir des sportifs aveugles, paralysés, à qui il manque un bras ou un pied, d'autres qui ont des problèmes mentaux.
Alors Ruben, comment on assure l'équité entre les sportifs ?
Il y a un système de classification avec 10 catégories de handicaps.
Quel est le continent le plus représenté aux Jeux paralympiques ?
L'Europe est le continent qui compte le plus de pays participant aux Jeux paralympiques.
Peut-être parce que les gens ont mieux accès au matériel pour pouvoir y pratiquer. Un exemple, des athlètes.
Najib, quels sont les sports paralympiques ?
On peut donner plein d'exemples. Le paranatation, le parajudo, le paracyclisme, le parataekwondo, l'escrime fauteuil, le rugby fauteuil, le tennis fauteuil, le volley assis, la boccia, le goalball.
Amir, est-ce qu'il y aura de nouveaux sports cet été ?
Oui, deux sports ont été ajoutés pour 2024. Paracanoë et le paratriathlon.
Téhéron, combien y aura-t-il d'épreuves ?
Il y en aura plus que pour les valets, 329.
Quel est le meilleur footballeur en situation de handicap, Léana ?
Le meilleur footballeur n'est d'autre qu'Ivan Wanenji Kepmeny. Il a été champion d'Europe en 2011, champion paralympique en 2012 et il a énormément apporté aux Bleus lors des championnats en 2019. On espère l'applaudir cet été.
Ruben, est-ce qu'il y aura des sportifs originaires du Loir-et-Cher ?
Oui, sûrement. Marie-Amélie Le Fur, championne en athlétisme. Elle vient de Vendôme.
Dis-moi, Léana, les sportifs paralympiques sont-ils encore amateurs ou professionnels ?
C'est encore impossible pour un sportif de vivre uniquement de son sport.
Dis-moi, Tyrone, quand auront lieu les cérémonies d'ouverture, de clôture des Jeux paralympiques ?
Les Jeux paralympiques seront déclarés ouverts le 28 août et se termineront le 8 septembre.
Et voilà, ce reportage est terminé. Nous vous souhaitons une bonne journée.
Au revoir.
Bonjour, nous sommes le 6e du collège Jean Rostan à la Motte Beuvron. Nous allons vous parler des dépenses et de ce que rapportent les JO.
Quand on a vu le film Les Chariots de Feu ou La Couleur de la Victoire, on comprend qu'aujourd'hui les JO coûtent beaucoup plus d'argent qu'au début du XXe siècle.
D'après ce qu'on a lu dans la presse, il était écrit dans un rapport remis au ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et autres secrétaires d'État au sport que le budget total s'élèverait à 6 milliards d'euros.
On comprend qu'il faut construire des stades, des villages olympiques, refaire des piscines, des gymnases et plein d'aménagements pour les transports par exemple.
Mais tout devrait être réutilisé d'après les Jeux, les habitants de Paris et pour les sports amateurs.
En plus, le Comité international olympique doit verser une subvention de 3 milliards d'euros pour que la France puisse organiser cette manifestation.
Les billets pour assister aux Jeux Olympiques sont vendus entre 24 euros et plusieurs milliers d'euros en fonction des sports, des épreuves, des catégories et des lieux des phases des compétitions.
Le président de la République, Emmanuel Macron, annonçait dans un autre journal 9 milliards d'euros de tombées économiques.
J'ai vu qu'une partie de l'argent gagné est reversée à l'Agence mondiale antidopage.
Moi, ce que j'ai compris, c'est que les comités internationaux et olympiques ne prévoient aucune récompense financière pour les médaillés. Chaque pays est libre de rémunérer ou non ses champions et fixe les moutons.
En France, depuis 2008, les médailles paralympiques reçoivent la même prime que les médaillés olympiques.
La ministre des Sports a augmenté les primes pour les sportifs français qui seront médaillés cet été. Les athlètes recevront 80 000 euros au lieu de 65 000 euros pour les médaillés d'or, 65 000 euros au lieu de 45 000 euros pour les médaillés d'argent et 20 000 au lieu de 15 000 pour les médaillés de bronze.
Et les entraîneurs des médaillés verront leur taux de prime passer de 50 à 100% des primes des médaillés qu'ils ont formés pour préparer les Jeux.
Ok pour tous ces chiffres, mais il reste quand même une question. Combien rapportent les Jeux de Paris 2024?
Nous le saurons peut-être cet automne.
Merci de nous avoir écoutés. C'était Axel, Alexis et Romain.
Bonjour, je m'appelle Mehdi.
Bonjour, je m'appelle Julia. On joue tous les deux au foot. On peut même dire que c'est une passion.
Carrément.
Nous allons vous parler des équipes de football qui seront aux JO de cet été.
D'abord, il faut vous rappeler que le football est apparu aux JO en 1900 pour les hommes et seulement 96 ans plus tard pour les femmes.
Depuis les Jeux de Tokyo en 2020, les Brésiliens et les Canadiens sont les tenants du titre.
On a appris que tous les joueurs ne pouvaient pas participer aux Jeux parce qu'il ne faut pas avoir plus de 23 ans. Mais en football féminin, il n'y a pas d'âge limite.
Cet été, les rencontres commenceront le 24 juillet avant le début des Jeux à cause du grand nombre de matchs. Elles se dérouleront dans les 7 plus grands stades français. Les finales du 9 août se joueront au Parc des Princes.
L'équipe de France masculine sait déjà qui elle va affronter en poule. Comme elle est pays hôte, elle est forcément dans le groupe A. Et c'est elle qui commencera le tournoi face aux USA, à la Nouvelle-Zélande, et aux vainqueurs du barrage, la Guinée et l'Asie.
Alors que les femmes doivent sortir premières du groupe Colombie, Canada et Nouvelle-Zélande.
Thierry Henry et Hervé Renard sont les deux entraîneurs des équipes de France.
Selon nos ressources, Wendy Renard et Manu Koné seront sûrement nommés capitaines des Bleus.
Nous espérons que la France va gagner les JO. En tout cas, nous, on regardera leur match pour les encourager.
Allez les Bleus!
Bonjour, c'est Johan avec Jason et Hayden.
Bonjour.
On va vous présenter la boxe anglaise aux Jeux Olympiques. Alors, c'est quoi le but ?
Le but de la boxe anglaise est simple. Toucher sans se faire toucher. Pour gagner un combat, il faut mettre son adversaire KO, marquer le plus de points que lui.
Depuis combien de temps il y a de la boxe aux Jeux Olympiques ?
La boxe est aux Jeux Olympiques depuis 1904, mais elle est jugée dangereuse, alors elle sera ouverte aux femmes seulement en 2012.
Hayden va vous parler de ses origines.
Avant même que la boxe anglaise n'existe, il y avait ce qu'on appelle le pugilat. Il s'agissait de combats à main nue et parfois avec des protections pour les mains. Mais c'était assez rare, ça remontait à la Grèce antique. Au fil des siècles, le pugilat a fini par être interdit. C'est au XVIIIe siècle que la boxe a commencé à apparaître. De nombreux combats entre boxeurs anglais avaient lieu. Mais attention, pas comme la boxe anglaise qu'on connaît aujourd'hui. Les combats se faisaient à main nue, sans limite de temps, sans catégorie de poids.
C'était quand même n'importe quoi.
Oui, il a fallu attendre qu'un boxeur perde la vie dans un combat pour que Jack Broughton propose en 1743 les premières règles. Interdiction de donner des coups de pied, interdiction de donner des coups sur la taille et interdiction de frapper un boxeur à terre.
Et après ?
En 1867, ces règles ont fini par être remplacées par les règles du marquis de Queensberry's. Le but était de rendre la boxe plus sûre pour préserver la santé des boxeurs. Mais tout ça devait aussi mettre en avant leur agilité plutôt que leur force. Les règles sont les suivantes. Les combattants doivent porter des gants rembourrés. Les combats se déroulent en plusieurs rounds de 3 minutes. Chaque round coupé de 1 minute de repos. La lutte est interdite. Un boxeur mis au sol doit se relever en 10 secondes avant d'être déclaré KO.
On sait qu'à Paris, il y aura 7 catégories en fonction du poids des boxeurs et 6 pour les boxeuses. Ça commence avec les poids mouches, moins de 48 kg chez les femmes et moins de 49 chez les hommes, jusqu'aux poids lourds, 81 et 91 kg. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le ring ?
Le ring est sur... 2 coins sont pour les boxeurs et... Les 2 autres sont neutres. C'est dans les coins neutres que l'arbitre envoie le boxeur qui a mis son adversaire KO. Par contre, ils n'ont pas le droit de se servir des cordes pour s'accrocher ou pour prendre de l'élan avant d'envoyer un coup.
Que doit faire l'arbitre ?
L'arbitre assure la sécurité. Il peut arrêter le combat dès qu'il pense qu'un boxeur est en danger ou qu'il ne peut plus se défendre. Il peut rappeler à l'ordre le boxeur qui ne respecte pas les règles. Il donne des pénalités. Il peut aussi séparer les boxeurs ou demander des pauses.
Il est tout seul ?
Non, il y a aussi 2 juges qui aident l'arbitre en dehors du ring pour noter les boxeurs.
Alors, comment on fait pour marquer des points ?
C'est simple. Quand on met son adversaire au tapis et qu'il n'arrive pas à se relever après un décompte de 10 secondes, que l'arbitre donne la victoire par KO. L'arbitre peut le compter alors que le boxeur est encore debout et pas au tapis.
C'est la seule façon de gagner ?
Non, on peut aussi gagner par TKO. C'est quand l'arbitre décide d'arrêter le combat parce que l'adversaire est blessé ou qu'il préfère abandonner.
Et au niveau des coups, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ?
On peut frapper son adversaire au visage, de face, de côté et au front, et au corps, au niveau du torse et sur les côtés. Les principaux coups de poing sont le jab, direct du bras avant, le cross, direct du bras arrière, les uppercuts, les crochets.
Est-ce qu'on peut aller au clinch avec son adversaire ?
Oui, on peut jusqu'à ce que l'arbitre vous sépare et on ne peut pas frapper jusqu'après avoir été séparé. On n'a pas le droit de le mordre comme Mike Tyson.
Donc si je résume, en boxe anglaise, les coups sont interdits dans le dos, dans la nuque et dans le cou, dans les reins, sous la ceinture.
En 1984, tous les boxeurs doivent obligatoirement porter un casque de protection. Ils mettent aussi un protège-dents. Et ils portent un maillot sans manches de la couleur de leur coin, bleu ou rouge.
Un combat dure longtemps ?
Aux Jeux Olympiques, un combat dure toujours trois rounds de 3 minutes pour les hommes et 4 rounds de 2 minutes pour les femmes. Le jugement se fait round par round.
Si je comprends bien, à la fin du combat, chaque juge additionne les points des rounds pour déterminer le vainqueur.
Oui, c'est ça. Les juges notent sur différents critères. Le nombre de coups, qualité et surtout quantité. La domination pendant le combat. La compétitivité des boxeurs. La technique et la tactique.
J'ai lu que depuis 2016, des boxeurs professionnels peuvent participer aux Jeux Olympiques. Des analyses indiquent que tout au long des 3 rondes, un boxeur olympique doit être en mesure de soutenir un rythme de 1,4 actions par seconde et d'environ 20 coups de poing, 2,5 mouvements défensifs et 47 mouvements verticaux des hanches par minute.
Au fait, comment il faut faire pour être sélectionné au JO ?
Pour être qualifié, les boxeurs ont participé à des présélections aux Jeux européens en Pologne en juin 2023 ou en Italie au mois de mars ou dernière chance en Thaïlande entre le 25 mai et le 3 juin. Plusieurs boxeuses et boxeurs combattront aux couleurs de la France.
Est-ce qu'on a des chances de médailles ?
Oui, bien sûr. Même si ce sont les Américains, les Anglais et les Cubains qui ont remporté le plus de médailles en boxe sur toute l'histoire des Jeux Olympiques.
Ne manquez surtout pas cette compétition qui donnera des médailles à la fin de chacune des 5 journées de Roland-Garros.